RFI, vous écoutez la Radio du Monde. Bienvenue, il est 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, en Syrie, les contacts avec les délégations étrangères s'établissent peu à peu. Ce dimanche, c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui a rencontré Abu Mohamed El-Joulani. L'ancien chef d'Al-Qaïda est apparu avec une cravate autour du cou. En Allemagne, l'enquête est en cours après la mort de 5 personnes dans l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg. Son comportement était signalé depuis plusieurs années aux autorités allemandes, vous l'entendrez. Et puis en fin de journal, l'intelligence artificielle pourrait consommer jusqu'à plus de 10% de l'électricité américaine d'ici 3 ans. En Syrie, les diplomates et responsables politiques se rendent auprès des nouvelles autorités pour rencontrer Abu Mohamed El-Joulani. Ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères turc a rencontré l'ancien chef d'Al-Qaïda. Il s'est affiché pour la première fois en public avec une cravate, une manière de se démarquer de l'exemple des talibans en Afghanistan, selon Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS.
Joulani a vu aussi le regard de la communauté internationale vis-à-vis de cette nouvelle administration talibane qui finalement n'a pas obtenu énormément de bons retours. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le Royaume-Uni a rétabli des contacts avec le gouvernement syrien renouvelé là, récemment, en l'espace de, qu'on soit bien clair, 2 semaines. Ils ont mis 2 ans et demi avec les Afghans. Vous voyez ? Et donc je pense que Joulani a compris qu'il fallait, il faut oser dire, s'occidentaliser pour gagner en fait l'oreille de l'Occident. Parce que pourquoi l'Afghanistan ne se reconstruit pas ? Parce que qui a les capitaux de réinvestissement ? Certes les pays du Golfe qui commencent à réinvestir en Afghanistan, mais en fait ce sont surtout les pays occidentaux. Et donc pour Joulani, dans un opportunisme politique qui est vraiment impressionnant, hein, il a compris que cette attitude était nécessaire.
Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a déclaré que les sanctions contre la Syrie devaient être levées dès que possible. Il a également estimé qu'il n'y avait pas de place pour les Kurdes en Syrie dans la nouvelle organisation du pays. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, ennemi juré de la Turquie, considéré comme terroriste par Ankara. Agir avec force et détermination. Avertissement ce dimanche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'encontre des Houthis. Ces rebelles du Yémen avaient lancé une frappe à Tel Aviv faisant 16 blessés légers. C'est la deuxième attaque lancée par les Houthis en 3 jours. L'armée américaine, alliée d'Israël, a réagi en visant des installations militaires rebelles à Sanaa, la capitale yéménite. Les combats se poursuivent à Gaza. 28 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes. Vendredi, un bâtiment scolaire a été touché et a fait 8 morts, dont 4 enfants. Le pape François condamne pour la deuxième fois en 2 jours la cruauté de ces frappes. Israël l'accuse de 2 poids 2 mesures. Et ce, malgré les espoirs d'un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année, le Hamas et 2 autres groupes palestiniens avaient déclaré qu'un accord de trêve était plus proche que jamais. Direction l'Allemagne, 5 morts, bilan provisoire de l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg. Le principal suspect, un médecin saoudien qui avait obtenu l'asile sur le sol allemand il y a plusieurs années. Il a été présenté au juge hier soir et placé en détention provisoire. Et la polémique enfle au vu de son comportement erratique signalé depuis plusieurs années aux autorités allemandes. Vincent Souriau, il ne cachait pas sa sympathie pour les thèses d'extrême droite contre l'immigration musulmane.
D'après le magazine d'investigation Der Spiegel, Berlin a reçu pas moins de 3 signalements au sujet de Taleb Jawad al-Abdoumohsen. Des informations livrées par l'Arabie Saoudite aux services de sécurité allemands en 2023 et 2024. Ce sont ces messages postés sur les réseaux sociaux qui ont déclenché l'alerte. Il y écrivait que l'Allemagne ne traitait pas bien les réfugiés saoudiens et qu'elle devrait en payer le prix. Ces renseignements sont parvenus jusqu'aux autorités régionales de Saxe-Anhalt où le drame s'est produit. Mais à l'époque, lorsque le suspect a été placé sous surveillance, la police n'a décelé aucune menace concrète. Depuis mars 2020, ce psychiatre saoudien travaillait auprès des toxicomanes placés en détention. Mais il est aussi décrit comme un militant de la cause des femmes saoudiennes, un homme qui avait tourné le dos à l'islam et qui craignait jusqu'à la paranoïa, l'islamisation de l'Allemagne. Il aurait ainsi souhaité la mort de l'ancienne chancelière Angela Merkel au motif qu'elle aurait admis les mauvais réfugiés dans son pays.
Le gouvernement allemand a promis une enquête rapide et minutieuse pour clarifier d'éventuelles erreurs des autorités. En France, malgré la promesse d'un gouvernement ce week-end, le Premier ministre François Bayrou n'a toujours pas trouvé son équipe. Il s'est entretenu avec le président Emmanuel Macron à 3 reprises ce dimanche. Son entourage indique qu'il effectue les derniers réglages. Il faudra donc attendre encore un peu, lundi, peut-être mardi. En tout cas, ce lundi sera jour de deuil national pour l'archipel de Mayotte en hommage aux victimes du cyclone Chido. Aux États-Unis, à moins d'un mois de sa prise de fonction, le président élu Donald Trump continue de menacer ses partenaires commerciaux. Ce samedi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, il s'en est pris au canal de Panama. Il relie l'Atlantique au Pacifique et les États-Unis en sont le principal client. Mais le milliardaire américain estime que les prix pratiqués sont trop élevés et menace de demander au Panama de rendre le canal aux États-Unis si les droits de passage ne baissent pas. Le Panama, de son côté, rejette la menace du futur président américain. Donald Trump, qui a annoncé ce dimanche vouloir arrêter, je cite, « le délire transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche », nouvelle salve du camp républicain contre les droits de la communauté LGBT. Il a déclaré qu'il signera des décrets pour que, je cite, « il faut mettre... » pour que, je cite, « mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées ». Vous avez peut-être déjà utilisé l'intelligence artificielle. On la savait gourmande en énergie, mais peut-être pas à ce point. Elle pourrait consommer jusqu'à plus de 10% de l'électricité américaine d'ici 3 ans. C'est une étude soutenue par le département américain de l'énergie qui le révèle. Et ce n'est pas sans poser de sérieux défis quant à la robustesse du réseau du pays. Simon Rosé.
L'annonce avait fait du bruit en septembre dernier. Microsoft déclarait vouloir relancer la centrale nucléaire de Three Mile Island, fermée depuis 5 ans. L'objectif, assurer les besoins en électricité des centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle. Un exemple de la quantité toujours plus colossale d'énergie que réclame cette technologie. Et ce n'est que le début, ces besoins vont tripler d'ici 2028. Selon cette étude, le secteur consommera alors 12% de l'électricité produite aux États-Unis. Il faudra que les moyens de production suivent, d'autant plus que la demande est également croissante dans d'autres domaines à mesure que le pays s'électrifie, notamment dans les transports et le bâtiment, afin de décarboner l'économie. Pour répondre à cet enjeu, les auteurs de ce travail proposent plusieurs pistes, allant de l'installation de batteries longue durée sur les sites des centres de données jusqu'à la mise en place de mini-réacteurs nucléaires, même si cette technologie n'est pas encore mature et cherche encore son modèle économique. Enfin, autre option envisagée, travailler sur l'efficacité énergétique de ces centres pour les rendre moins gourmand.
Il est le prodige d'un sport dont les Anglais raffolent. Luke Littler s'est qualifié ce samedi à Londres pour le 3e tour des championnats du monde de fléchettes. À 17 ans, il est devenu en quelques mois la coqueluche du public. Les précisions depuis Londres de Sarah Menahi.
C'était le main event ce samedi soir à Alexandra Palace, la Mecque des fans de fléchettes. Devant près de 4000 spectateurs qui, tradition oblige, étaient déguisés en Père Noël ou en banane, Luke de Nuke Littler a fait son entrée en piste. La bombe nucléaire, comme le surnomment les Anglais, inconnue du grand public il y a encore un an, et cette année plus populaire au Royaume-Uni en termes de recherche Google que le Premier ministre Keir Starmer, élu au mois de juillet. Ce samedi, Luke Littler n'a pas déçu ses supporters. Le natif du nord-ouest de l'Angleterre a battu, non sans difficulté, son adversaire du jour, son compatriote Ryan Mickle. Littler, avec une nervosité normale pour un jeune athlète et même une émotion non dissimulée en fin de match.
J'étais un peu anxieux. Il a fallu que j'aille trouver la force en moi d'aller gagner ce match. J'ai voulu répondre à des questions tout de suite après le match, mais j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je me suis demandé ce qu'il m'arrivait. Les supporters ont été incroyables, mais c'était juste un peu trop d'émotions pour pouvoir m'exprimer.
Le rituel culinaire de Luke Littler après une victoire, un kebab ou une pizza, un régime d'adolescent pour un sportif hors normes. Sarah Menei, Londres, RFI.
Il est presque 1h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RFI.